Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, aujourd'hui 18e épisode des Saints de chez nous, le Père Clément d'Asquin, le Père Fidèle de Béla et le Père Jean-Baptiste Garat d'Asparin.
Les saints de chez nous. Au cours des siècles passés, siècles de foi et de chrétienté, ils ont été très nombreux dans nos régions et particulièrement dans notre pays basque. Que de Checo Andere, modèle de dignité et de dévouement, que de pères de famille admirables, hommes de foi, de devoir et de labeur, que de prêtres fervents, que de religieuses, que de missionnaires. Certes, nos terres ont été fertiles en fruits de sainteté. Au moment d'évoquer quelques hautes figures spirituelles de notre terroir, on pourrait peut-être se poser une question à laquelle notre étude ne fournira sans doute pas de réponse, faute de présenter des exemples suffisamment nombreux. Y a-t-il une sainteté basque? Le saint de chez nous représente-t-il un type particulier? Ah, bien sûr, comme tous les autres, il aime héroïquement Dieu et son prochain. Il est un serviteur zélé de l'Église. Mais encore, n'a-t-il pas sa spécificité? À cette question, notre étude n'apportera pas de réponse suffisamment tranchée, mais on sait déjà quelle réponse on a pu y donner. Essentiellement trois. Certains, comme José de Arteche, ont vu en Duvergier de Orane, abbé de Saint-Cyran, le type du spirituel basque, rigoureux, intransigeant, ombrageux, polémiste. Pour d'autres, le saint basque est un homme de service et d'action, plus porté à l'apostolat qu'à la contemplation. Ce qui s'accorde avec un troisième point de vue, selon lequel le type du saint de chez nous est le missionnaire, dont François-Xavier représente un insurpassable idéal. Il y a chez tous les Basques, considéré le père Lande, un fond d'inquiétude atavique qui fait des corsaires, des capitaines, des contrebandiers, des marchands de foire lointaines, des chasseurs de baleines, des pêcheurs de morue sur les bancs de Terre-Neuve, des bergers dans le Far West et aussi des missionnaires. Je ne pense pas, dit le père Lande, que toute proportion gardée, un seul peuple en Europe ait donné à l'Église catholique une génération de missionnaires comparable à celle qui est sortie du Pays basque, espagnol et français dans l'espace des quatre derniers siècles. De ces missionnaires basques, la galerie est encore à faire, elle se fera un jour, parce qu'elle promet de réunir en groupe absolument remarquable des figures les plus typiques qui soient, de saint François-Xavier, ajouterions-nous, au père Arroupé ou au père Gando. Encore une fois, notre galerie sera très loin d'être complète. Je ne présenterai que six tableaux. Deux capucins d'abord, le père Clément d'Asquin et le père fidèle de Véla, puis Jean-Baptiste Garat d'Asparin, Louis-Édouard Sestac, un Bayonnais, Michel Garicoitz d'Ibar, et enfin Jean-Léon Bastre de Saint-Pé-sur-Nivelle. Dans l'histoire de la sainteté basque, les capucins ont une part que nous ne devons pas oublier. Deux noms surtout s'imposent à notre mémoire, le père Clément d'Asquin, le père fidèle de Véla. Le père Clément nous oblige à un retour en arrière, puisqu'il vécut intégralement sous l'Ancien Régime. Né à Asquin en 1696, il mourut à Bayonne le 25 juin 1781, âgé de 85 ans. Avant ses vœux, il s'appelait Jean Duhalde. Il perdit très jeune et son père et sa mère. À 14 ans, quand sa sœur aînée le confia aux Capucins de Bayonne, il ne connaissait encore que le basque, lui qui devait devenir l'un des plus célèbres orateurs du siècle. De Jouy, l'auteur de L'Ermite en province, écrit, sans doute avec quelque humour, que, sans qu'on ait pu deviner par quel miracle, il fit d'excellentes études dans ces cloîtres où l'on faisait vœu d'ignorance. Il en sortit tout à coup pour faire entendre du haut de la chaire évangélique, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, une des voix les plus éloquentes dont nos temples aient retenti. Ce n'était pas Briden, ajoute de Jouy, Briden, un de ces missionnaires des déserts qui apparaissent dans les capitales pour en effrayer, pour en maudire l'élégance et les voluptés mondaines. C'était, sous la bure fauve d'un capucin, la sainte urbanité, l'éloquence pleine de grâce et l'onction d'un prince de l'Église, pour qui la morale la plus pure et la philosophie la plus sublime étaient le véritable esprit du christianisme. Pierre Aristoï nous dit de son côté que la prière, la méditation et l'étude de l'Écriture sainte firent la passion du jeune religieux jusqu'à ce que, ordonné prêtre, sur l'invitation de ses supérieurs, il se donna à la prédication pour laquelle il avait un talent rare. Favorisé d'un magnifique organe, d'un maintien imposant, il occupa la chaire chrétienne pendant une longue période de 50 ans. Les principales villes de France, et surtout celles de Sens, de Montauban, plus importantes alors qu'aujourd'hui, de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, où l'appela le célèbre Monseigneur de Belzunce, retentirent des accents de son éloquence mâle et hardie. Précédant à peine de quelques années l'illustre missionnaire Briden, il donna avec le plus grand succès plusieurs stations de carême et d'avent. Celle qu'il donna en 1751, 1752 et 1753 à Paris, où l'appela Monseigneur de Beaumont, ancien évêque de Bayonne et irréductible ennemi des jansénistes, le firent placer parmi les meilleurs orateurs de l'époque et ne contribuèrent pas peu à le faire nommer prédicateur ordinaire du roi de Pologne Stanislas Leszczynski, qui était, on s'en souvient, le beau-père de Louis XV. Ennemi de cette élocution pleine d'affetterie, si en vogue de son temps, le père Clément, dit encore Aristoï, n'oublia jamais la sublimité de sa mission pour se recommander lui-même à l'auditeur. Célèbre prédicateur hors du cloître, sitôt sa mission remplie, il y rentrait pour être le modèle de la régularité la plus austère aux yeux de ses frères en religion. Il n'accepta jamais que par obéissance les principales charges de son ordre, qu'il eut à remplir plusieurs fois. Gardien du couvent de Bayonne, définiteur et provincial de Guyenne, il fut appelé à Rome pour élire le nouveau général de l'ordre. Le modeste religieux, ayant quelques motifs de craindre qu'on ne voulût lui confier cette dignité, prit toutes les mesures pour n'arriver à la capitale du monde chrétien qu'à la clôture de l'élection, ce qui n'était pas de parfaite obéissance, et lui valut, dit-on, des reproches de la part du souverain pontife Pie VI. De Jouy, Aristoï, Duvoisin et sans doute d'autres qui ont écrit sur le père Clément d'Asquin ne manquent pas de citer le quatrain que lui a consacré Don Chaudon, un bénédictin de Cluny. Doux sans faiblesse, austère avec prudence, il subjugua l'esprit, il sut toucher les cœurs, et joignant les vertus au don de l'éloquence, il nous prouva ses discours par ses mœurs. Le couvent des Capucins de Bayonne si sur l'emplacement de l'actuelle église de Saint-André disparut à la Révolution. Et il n'y aura pas d'autre communauté de l'ordre en France avant que ne s'établisse en 1842 à Eroritz, qui est un quartier d'Ustaritz, un groupe de capucins en fuite d'Espagne. Nous arrivons à notre deuxième figure, donc, le père fidèle de Vera. Le père Clément d'Asquin était un prédicateur de renom et un religieux honorable, dans un XVIIIe siècle somme toute confortable. Dans un XIXe siècle, au cours duquel l'État monacal est férocement combattu, mais qui, à bien des égards, ressuscite les ferveurs et les austérités du Moyen-Âge, le père fidèle de Vera de Bidasoa est un personnage d'une autre trempe. Au milieu du siècle, on disait communément dans notre région, le diocèse a trois saints, le père Garicoitz, l'abbé Sestac et le père fidèle. Il était né donc dans la jolie bourgade, remarquable par la multitude de ses balcons, qu'on trouve à la descente d'Ibardine. C'était le 18 juin 1812. Plus tard, les Baroja, Pio puis Julio contribueront au renom de Vera de Bidasoa. Juan José de Irazoqui, c'était son nom dans l'état civil, entra à 15 ans dans le grand couvent capucin de Sintruénigo dans la Rioja. Il étudia à Tafalla et à Peralta, dans la Navarre. Mais au moment où il va être ordonné, les libéraux déchaînent la persécution contre les religieux. La première guerre carliste a commencé. Juan José se réfugie en France, il séjourne à Bétaram et le 19 septembre 1835, il est ordonné prêtre au séminaire de Bayonne. Très vite, il rejoint la zone carliste au couvent de Fontarabie. Mais après l'Abrazo de Vergara, les couvents sont fermés. Les capucins portent l'habit des séculiers. Ils vont ici et là dans leur famille ou chez des amis, offrant leur service aux paroisses, prêchant, confessant. Un jour de 1841, le père fidèle rencontre le curé d'Ustaritz, l'abbé Savarotz, qui lui propose de venir dans sa paroisse exercer le ministère. Le capucin en parle à ses amis, et voilà qu'ils arrivent en mai 1842, six prêtres et deux frères laits. Ils s'établissent à Eroritz, dans une maison trop petite et affreusement délabrée, contiguë à la chapelle Sainte-Catherine. Là, comme François d'Assise et ses premiers compagnons arrivent au Torto, ils réalisent leur rêve. La vie selon la règle, dans le jeûne prolongé au pain et à l'eau, le corps châtié par le fouet, le lever de nuit pour célébrer matine, la robe de bure, les pieds déchauds. Les Ustaristars et leurs voisins s'extasient. Ils sont émerveillés. Ils ne veulent que personne d'autre que ces capucins navarrais qui parlent basque commun pour leur prêcher, pour les confesser. On vient la nuit de toute la contrée. On fait la queue des heures, des jours entiers pour se confesser à ces religieux de notre temps. Eroritz commence à ressembler à Ars. Hélas, les pauvres capucins étrangers ont trop de protecteurs vrais ou faux. Ils sont soumis à trop d'autorités contradictoires, hostiles les unes aux autres. Le maire, comte Garat, le fils du tristement fameux Joseph Dominique, son adjoint d'Assens, leur fondé de pouvoir, dit Basson, le curé, l'évêque, le préfet, le sous-préfet, le père provincial, le commissaire général pour les capucins exclaustrés. Tout ce monde se chamaille pour imposer ceci, interdire cela. Que d'entraves, quelle gêne pour nos religieux qui avaient tant rêvé de fonder un grand couvent, de relancer l'ordre. En 1848, lorsque la poigne de Narváez a rétabli la tranquillité en Espagne et permis au couvent de rouvrir, les capucins terroristes regagnent l'Espagne. Tous, sauf le père fidèle, qui s'est attaché à notre région, et son compagnon dévoué, le père Firmin d'Escaille. Fidèle rêve d'établir à Bayonne un couvent en bonne et due forme, qui comporte un noviciat. Il s'en ouvre à Monseigneur Lacroix, qui lui donne un accord empressé. Reste à obtenir celui du pape. Nos deux capucins vont le chercher à pied jusqu'à Marseille, puis en bateau jusqu'à Civitavecchia. Et le 2 décembre 1852, ils obtiennent le bienheureux rescrit signé du cardinal Fornari, protecteur de l'ordre des frères mineurs capucins. Tout heureux, ils reviennent à Bayonne, faisant toute la route, cette fois à pied, et mendiant leur pain quotidien. Dès leur retour, les choses iront vite. Un ancien maire de Bayonne, l'excellent Joachim Dubroc, donnera le terrain à Lachepaillée, qui est encore un coin de campagne, proche de la ville. On construira pour 50 000 francs, dont Monseigneur Lacroix couvrira plus de la moitié. L'histoire ne dit pas si c'est sur sa fortune personnelle ou aux frais du diocèse. Le modeste édifice a la basse chapelle, au cloître à grosses colonnes et aux 35 petites cellules de 2,40 m de longueur sur 2,40 m de largeur et 2,80 m en hauteur que nous connaissons encore aujourd'hui. Il n'a pas substantiellement changé depuis l'origine. Le temps des travaux, 3 ans, la petite communauté qu'ont grossi le père Félix d'Ascoitia et le père Séraphin d'Oloron se loge dans une maison de Saint-Pierre-d'Irupe. Et enfin, le 6 avril 1852, c'est l'entrée des capucins dans le couvent de Bayonne, suivi le 2 juillet par la consécration de la chapelle qui est dédiée à Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Du vivant du père fidèle, la communauté ne sera jamais bien nombreuse. À sa mort, le 16 juin 1862, elle n'est encore composée que de 10 membres, 3 pères, 1 clerc, 3 frères laits et 3 novices, tous espagnols, sauf le très angélique père Séraphin d'Oloron. Il semble qu'ils aient beaucoup moins prêché à Bayonne qu'à Ustaritz, probablement à cause de leur ignorance du français. Ils se sont employés à la confession des fidèles et à leur vie religieuse, vie de prière et de rude pénitence. Levés à minuit pour matine et laude, levés de nouveau à 5h30, faisant 2 heures d'oraison chaque jour, une le matin, l'autre le soir, vivant de ce qu'apportent les frères quêteurs, ils mènent une vie d'une austérité effrayante. Gardien du couvent et maître des novices, le père fidèle a l'extrême souci de maintenir la communauté dans la stricte observance de la constitution primitive de leur père Saint-François. Les pages restées encore manuscrites de l'histoire des capucins de Bayonne par le père Marius sont hautement édifiantes à cet égard. Je n'en retiendrai, pour finir cette évocation des premiers capucins de Lachepaillée, qu'un détail, celui qui regarde le linge des moines et leur vestiaire. C'est le 4e article du règlement de la communauté qu'édicta le père fidèle. En ce qui concerne l'habit, avec une majuscule, le saint habit de l'ordre franciscain, la tunique, le manteau, la corde, les mouchoirs, les sandales et les caleçons, on se conformera en tout à la règle et aux constitutions. C'est-à-dire, chaque religieux n'aura qu'un seul habit, toujours avec majuscule, et une tunique s'il le désire, une paire de caleçons, une paire de sandales avec deux mouchoirs. Le religieux chargé du vestiaire aura soin de déposer dans chaque cellule de chaque religieux un mouchoir et une paire de caleçons pour la semaine. On l'a dit à juste titre, à bien des égards sur le plan religieux, le 19e siècle a restauré le Moyen-Âge. Notre troisième saint de chez nous, c'est le père Garat. Le 9 août 1845, un grave incendie se déclara dans une maison du bourg d'Asparin. Le tocsin sonna. Mais s'il faut en croire Augustin Chaot, qui en parle dans Ariel Courrier de Vasconie, les membres du clergé local se pelotonnèrent au fond de leur lit. Sauf le père Garat. En première ligne, parmi les combattants du feu, le père Garat manifesta face à l'incendie la même ardeur qu'il apportait à la chaire et au confessionnal. Exacte ou partiale, la relation est intéressante, en particulier parce qu'elle montre quel était à Asparin et dans tout le Pays basque le prestige de cet homme. Il s'imposait même à un anticlérical aussi déclaré que Chaot. Aujourd'hui, on l'a passablement oublié. C'est dommage, et je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de saluer sa mémoire, ainsi qu'a fait récemment le père Xavier Diars dans une courte chronique basque de Heria. Jean-Baptiste Garat, qu'on appela volontiers toute sa vie Pikachari, du nom de sa maison natale, Pikacharia, du quartier Minots, fut le premier supérieur des missionnaires d'Asparin. Il n'en fut pas le fondateur. Ce mérite revient à l'évêque Paul Dérèse David d'Astros, qui, comme tous les évêques de France, soucieux de la restauration du christianisme après la terrible épreuve de la Révolution, lançait une équipe de missionnaires diocésains. Modeste équipe, composée de deux prêtres, les pères Garat et Inchospé, et deux diacres, les abbés Guirez et Guimont. Monseigneur d'Astros logea les missionnaires d'abord à l'évêché, puis près du grand séminaire, ensuite à l'Arsor, et enfin, dès l'année qui suivit cette fondation, soit en 1824, dans les maisons Landaburia et Churiateguia, en haut de la rue Montante à Asparin. Jean-Baptiste Garat était né le 7 juillet 1773 dans une bonne maison de cultivateurs qui compta 8 enfants. Sa jeunesse paraît avoir été assez inquiète. Très vite, il songea au sacerdoce, il méditait, il jeûnait. À 20 ans, il s'enrôla parmi les chasseurs basques du colonel Arispe, en guerre contre les Espagnols. À son retour, lisons-nous chez le père Arbelbide, qui devait être son troisième successeur, il se mit à la tête de la jeunesse d'Asparin. Fête, danse, partie de pelote, partout le fils de Pikacharia se trouvait être le bout en train. Il fut question de mariage avec une bonne héritière d'ailleurs. Mais les réflexions, la prière, la pénitence le reprirent. Il gémissait sur le triste état de l'Église que la Révolution avait abîmé, sur le manque de prêtres. Enfin, un jour, n'y tenant plus, « Je voudrais être prêtre, » dit-il à son confesseur. « Prêtre, prêtre, » rétorqua celui-ci, « c'est facile à dire, mais il faut être un prêtre bon, très bon. » Le mot n'était pas fait pour décourager l'âme inquiète et généreuse du garçon. Il avait 29 ans, c'était en 1802, lorsqu'il se mit à l'école de l'abbé Duhalde, curé d'Aretz, et 5 ans plus tard, En 1807, à 34 ans, il était prêtre. On ne moisissait pas dans les séminaires en ces temps-là. On l'envoya vicaire à Austerlitz, où, on ne tarda pas, écrit le père Arbelbide, à remarquer la supériorité de Garat Pikachari. On fut frappé de son talent de prédicateur. Bientôt, sa réputation s'étendit au loin. À l'époque, sans radio, ni télévision, ni micro, ni journaux dans nos campagnes, on se doute que le talent oratoire comptait plus qu'aujourd'hui. Et nous arrivons à ce 24 juin 1814. C'était 8 jours après Waterloo, mais à Asparin, on parla d'autre chose. Ce 24 juin, où l'abbé Jean-Baptiste Garat Pikachari prononça l'un des deux plus fameux sermons de sa vie. Je vous en livre le récit tel que le donne Arbelbide dans ce français qui, je ne sais trop pourquoi, fleure encore le basque. Monsieur le curé de Asparin l'invita à prêcher le jour de la fête patronale. Jamais peut-être les Aspandards n'ont entendu pareil sermon. Il dit à peine quelques mots sur Saint Jean-Baptiste. Ce fut sur lui-même qu'il parla. Il avoua les folies de sa jeunesse, ses extravagances, sa vie dissipée. Dans l'ardeur de son repentir, il exagérait ses fautes, se rabaissant au-delà de toute expression, se dépeignant sous des couleurs telles qu'on l'eût pris pour un grand pécheur. Cet aveu, il le fit en se frappant la poitrine, les yeux baignés de larmes. Bientôt, toute l'assistance éclata en sanglots qui étouffèrent la voix du prédicateur. Ah, la bonne confession, elle profita à l'auditoire autant ou plus qu'au pénitent. Avant de descendre de chair, il dit ces paroles. « Mes chers compatriotes, je vous ai déclaré mes péchés tels quels, dit Messala. Désormais, je parlerai de vos fautes, plorez-les, flagellez-les et vous sauvez. » Depuis ce jour, monsieur le curé de Asparin se faisait venir souvent d'Austerlitz pour prêcher, et même il le demanda comme vicaire à l'évêque de Bayonne. Garat Pikachari, continue Arbelbide, vint donc d'Austerlitz vicaire à Asparin l'an 1814. À peine arrivé, il s'éleva avec véhémence contre les désordres de ses compatriotes, et 8 ans durant, il les flagella sans répit, embrasé qu'il était du saint désir de les sauver. Il transforma Asparin, le tira de la voie du mal pour l'engager dans celle du bien. J'ai parlé de mal, mais qu'on ne se représente pas Asparin comme un pays perdu. Il était dans le relâchement et la dissipation. À Peña, Celaye, Elisabéry et Cholaroch, c'est ainsi sans doute qu'on appelait Asquette à cette époque, il y avait bal tous les dimanches. On peut juger de ce qui en pouvait résulter pour les âmes. Le vicaire Pikachari fit une guerre acharnée à ce fléau de la vertu. Peu à peu, tout bal cessa. Les fidèles fréquentèrent les sacrements. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus se développa. On eut le consolant spectacle de jeunes gens et de jeunes filles, jusqu'alors vivant dans les amusements, désormais revenus à Dieu complètement, s'approchant de la Sainte Table tous les 8 jours, et après avoir dit adieu à toutes les dissipations, vivant comme dans une communauté, toujours chez eux ou à l'église. On le voit, Jean-Baptiste Garat était tout désigné pour devenir le premier supérieur des missionnaires du Sacré-Cœur de Asparin. Il leur insuffera l'esprit que nous leur avons bien connu et qu'ils gardèrent jusqu'à leur extinction récente en 1985 à la mort du père Jean-Léon Lureau, ce dernier acteur d'une épopée. Dispersé par la résurgence révolutionnaire de 1830, les missionnaires se regroupèrent autour de Garat Pikachari. De 1833 à 1847, année de sa mort, il reçut le concours des pères Deyerald, Etcheverry, Iriard, Irigoyen, Curuchet, Cotillard et Béraud. Tous, dit Albert Bild, émirent des vœux de religion et vécurent sous la sauvegarde de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. Les dernières années du père Garat furent assombries par une pénible maladie des membres inférieurs. Ses jambes ulcérées s'alourdirent, raconte l'abbé Aristoï. Il fallut pratiquer un passage de sa chambre à la tribune de la chapelle pour qu'il y confessât et y célébrât la Sainte Messe tant que ses jambes pourraient le tenir debout. Mais bientôt, elles lui refusèrent tout service. Alors il se fit charrier sur une chaise. Les infirmités croissant, il renonça à la tribune et se fit monter un autel dans le couloir à côté de sa chambre. Mais bientôt, il ne put célébrer les saints mystères. Il se résolut à faire seulement la Sainte Communion, à 6 heures, heure habituelle de sa messe. Incapable de se mouvoir, un ou deux domestiques l'habillaient, le traînaient encore près du feu. Une forte suppuration coulait des 1000 plaies de son corps. Ses pieds nageaient dans ses chaussures. Le parquet en était comme arrosé. Et cependant, M. Garat entendait la confession de quelques-uns de ses pénitents qui ne pouvaient se résoudre à se séparer de leur père spirituel. Enfin, on ne put plus toucher son corps sans réveiller les douleurs les plus atroces. Le chapelet ou la croix à la main, les yeux fixés sur ce passage de l'imitation écrit en face de son lit, « Oh, si Jésus crucifié entrait une fois dans notre cœur, que nous serions suffisamment instruits !» Il endurait ces cruelles souffrances avec cette énergie, cette joie que donne la croix, « In cruce robur mentis », l'esprit prend force par la croix. La maladie du père Garat était déjà avancée lorsqu'il prononça à l'église d'Asparin une allocution, la dernière, qui n'eut pas moins de retentissement que la première. Je laisse encore une fois Jean-Pierre Arvelbide en relater les circonstances. L'année 1846, le printemps fut mauvais. Les semailles se firent avec peine. Le maïs planté ne pouvait germer. Aussi le grain renchérit. Par ailleurs, le travail de la cordonnerie cessa. Bientôt, la misère fut grande dans le pays. La plupart des familles étaient dans la gêne et l'angoisse. Pour comble de malheur, les plus forts propriétaires s'entendaient pour hausser le prix du froment et du maïs. M. Lissardi était alors curé de Asparin, encore nouvellement arrivé. Il célébrait avec pompe la fête de la congrégation du Sacré-Cœur, le jeudi octave de la fête de Dieu. Le matin de ce même jour, le père Garat apprend l'injuste spéculation des propriétaires de Asparin. Il trépigne et dès l'heure des vêpres, « Ah, prenez-moi, dit-il à ses serviteurs, et portez-moi à l'église. » On l'y porte, l'église est comble. Un murmure joyeux circule dans l'immense assemblée à la pensée d'entendre Picachari. À l'heure du sermon, le père se retourne de la sainte table et commence ainsi. « Je ne viens pas prêcher. Monsieur le curé vous le fera mieux que moi. Mais je lui ai demandé l'autorisation de vous dire quelques mots. Vous voyez dans quelle triste situation se trouve le pauvre peuple. Les ouvriers sont sans travail. Le prix du maïs augmente de jour en jour. On n'allume plus de four à la campagne. Ah, prenez garde, bourgeois. Craignez que le bon Dieu ne vous châtie si vous n'avez pas compassion du pauvre qui gémit dans la misère. Il ne vous appartient pas de fixer le prix du froment ou du maïs. C'est là un droit réservé au maire. » Les propriétaires, effrayés, baissèrent le prix et le peuple respira. Jean-Baptiste Garat, dit Picachari, mourut 7 mois plus tard, le 4 janvier 1847. Il a fortement marqué de son empreinte, rigoureuse certes, mais tonique et salutaire, Hasparren et tout l'ensemble du Pays basque pour un siècle et plus. Autour de la maison des missionnaires, les écoles fleurirent et les congrégations et leurs œuvres. C'est une forte figure que celle de cet homme qui fut un grand témoin du Christ et un admirable serviteur de son Église. Il ne faut pas la laisser tomber dans l'oubli.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 19e épisode, des saints de chez nous, le Père Sestac de Bayonne, le Père Caricoïts d'Ibar et le Père Jean-Léon Bastre de Saint-Pé-sur-Nivelle.